carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour. Depuis plus de 10 ans, dans le cadre du projet Athéna, le musée de l'armée s'est attelé à une profonde œuvre de rénovation et de modernisation de ses espaces. 2009 marque la fin de ce programme avec la réouverture des salles consacrées à la période qui s'étend de Louis XIV à celui de Napoléon III. Le 16 mai au soir, à l'occasion de la Nuit des musées, le public pourra à nouveau admirer les collections relatives à l'Ancien Régime, à la Révolution et au Premier Empire. En avant-première de cet événement, Canal Académie s'est rendu au musée de l'armée et a rencontré Émilie Robbe, conservateur du département moderne. Écoutons-la nous présenter ses nouvelles salles. Émilie Robbe, bonjour. Entrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, et donc à l'ouverture des salles couvrant la période qui s'étend de Louis XIV à Napoléon. Que va découvrir le public ?
Le 16 mai sera une journée très particulière, au sens où la réouverture des salles qui consacraient la première partie, en fait, des salles consacrées au département qui court sur la période qui va de Louis XIV à Napoléon III, donc cette première partie s'achève en 1814 et aura droit en cette nuit des musées à sa fête un peu particulière. Pour sa première présentation au public. Alors, que va-t-on découvrir ? Un certain nombre d'objets déjà fort attendus depuis plus de 4 ans maintenant par le public, d'autres tout nouveaux, des armes, des uniformes, des emblèmes, des pièces d'artillerie. Et par ailleurs, permet de le signaler, un certain nombre d'acteurs, de comédiens qui viendront narrer des textes, mettre en mouvement également l'usage des armes à travers les siècles. Donc nous aurons droit à une représentation de mousquetaires en train de préparer une revue par le roi, une salle d'armes au XVIIIe siècle où fera irruption le duc de Bourgogne et même une présentation des manœuvres de grenadiers d'Île-de-France. Ils sont un groupe de reconstitution fort connu au musée de l'armée. Tout cela pour rendre l'histoire vivante en même temps qu'elle peut se faire redécouvrir par le public.
Ça, ce sont les activités prévues le 16 mai, mais si vous le voulez bien, on va revenir à ces nouvelles salles et à la muséographie de ces nouvelles salles. Je dirais, comment s'articule le parcours ? Est-il thématique ? Est-il chronologique ?
Les deux, c'est la meilleure réponse. Pour arriver à organiser un parcours pour une période aussi longue et complexe dans l'histoire de l'armée de terre et dans l'histoire de France en général, il faut parfois aussi savoir composer avec la nature des collections. Donc pour ce qui est de l'Ancien Régime, les pièces parfois nous sont parvenues en très petit nombre ou très fragmentaires. Et c'est la raison pour laquelle nous avons privilégié une présentation thématique dans la première aile, consacrée à la formation d'une armée permanente, à la naissance de l'uniforme et d'une réglementation pour l'armement, l'équipement et la manœuvre des soldats, ainsi qu'à des points précis sur quelques pôles très importants qui ont véritablement marqué l'histoire militaire, notamment des batailles ou l'action de réformateurs comme le duc de Choiseul, par exemple. Donc pour les batailles, on trouvera notamment l'accent fortement mis autour de la bataille de Rocroi, celle de Fontenoy, donc un siècle plus tard, au moment de la guerre de l'indépendance américaine, à l'instant où s'achève la période qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Régime, également la bataille de York.
Pouvez-vous, pour cette période de l'Ancien Régime, nous présenter un objet emblématique, un objet phare ?
Je vous dirais volontiers dans ce cas-là que j'aimerais qu'on parle peut-être en 2 secondes du tableau que le musée de l'armée a acquis alors que les salles étaient encore fermées et que le public va peut-être pouvoir découvrir en avant-première ce soir de la Nuit des musées, qui est un portrait, un très beau portrait du Grand Condé avant qu'il ne soit le Grand Condé. À l'époque où on l'appelait le duc d'Enghien, et avec sa cavalerie devant le champ de bataille de Rocroi, peint par Juste d'Aiguemont à la demande du duc d'Enghien lui-même à la suite de la bataille. C'est un tableau qui avait été commandité pour orner la grande galerie du château de Chantilly et qui aujourd'hui revient dans les collections publiques, je pense pour le plus grand bonheur de tous, en faisant le lien avec le tableau de Tassel qui termine les salles du département ancien, une période juste précédente.
Passons, si vous le voulez bien, à la Révolution maintenant. À nouveau, chronologique, thématique, ce parcours ?
plutôt chronologique cette fois-ci. Les collections nous le permettent un tout petit peu davantage, au sens également où on a presque tendance à penser que l'histoire s'accélère et où l'enchaînement des événements a un poids extrêmement important sur les événements politiques. Enfin, disons que les événements politiques et militaires s'enchevêtrent d'une façon assez intime. Et pour cette période, nous avons privilégié une succession essentiellement de batailles, de campagnes et de présentations également à caractère plus thématique en parallèle, mais peut-être en second plan. La présentation thématique s'intéressant notamment à la constitution d'une armée nationale à partir de l'armée de ligne royale et de la garde nationale, ainsi qu'à l'organisation et à l'action d'un certain nombre de généraux influents, à commencer par des gens tels que Moreau, Hoche ou Desaix, mais aussi un certain général Bonaparte dont on reparlera.
Là encore, pouvez-vous nous décrire, nous choisir un objet pour illustrer cette période ?
Je vous aurais volontiers parlé de la maquette de la bataille de Lodi. Puisque nous parlions de Bonaparte, cette maquette est un dépôt du musée des plans-reliefs au musée de l'armée et elle a été commanditée au moment du consulat en 1803 par Bonaparte lui-même à l'issue de la bataille pour représenter le moment où les troupes révolutionnaires se lancent à l'assaut du pont. Troupes où l'on reconnaît parmi les plus grands des futurs maréchaux de l'Empire. Et cette maquette est à la fois donc un document extrêmement émouvant, une sorte de vision figée de ce qui est l'origine de la plus grande gloire du futur empereur qui lui-même ignore à ce moment-là combien il va devenir grand. Cette maquette placée en regard de l'habit qu'il porta précédemment à la bataille de Marengo et préfigurant aussi ce qu'on verra peut-être un tout petit peu après, me semble un exemple assez intéressant.
Donc vous nous parliez de la maquette de la bataille de Lodi. En effet, ça nous introduit bien entendu à la période napoléonienne et bon, il y a le consulat puis l'Empire. Et c'est vrai que Napoléon étant un des personnages clés du musée de l'armée, cette fois-ci, le parcours est-il différent par rapport aux deux autres périodes ?
Le parcours n'est pas différent. Non, non. Le parcours suit la même logique qui tente d'expliciter de la façon la plus claire, la plus précise possible les éléments militaires et les événements politiques qui sont en lien les uns avec les autres. Nous considérons que c'est très compliqué de faire de l'histoire strictement militaire lorsque le projet Athéna dont vous a parlé le général Bresse précédemment veut que nous devenions un musée d'histoire précisément et que l'évolution de l'enseignement de l'histoire étant ce qu'il est, également l'évolution du public du musée de l'armée qui fait que nous avons beaucoup d'étrangers qui ne sont pas forcément très au fait de l'histoire de France, nous prenons soin de raccorder systématiquement ces grands événements militaires à des événements politiques également. Et donc nous mettons autant que possible en regard Napoléon Bonaparte, chef d'État, et Napoléon Bonaparte, chef militaire. Mais peut-être y a-t-il, on va dire, une présentation un peu particulière en ce sens que pour les quelques années à peine qu'a duré cette période, l'espace est très important proportionnellement, que nous prenons le temps de présenter chaque unité, de présenter chaque campagne et également de replacer dans les salles un certain nombre d'objets phares de façon la plus agréable possible. Je pense entre autres à l'ancienne reconstitution de la tente de l'empereur, que l'on y retrouvera bien entendu, à la présentation un peu magistrale autant que possible avec quelques murs rouges évoquant justement la pourpre impériale. Donc nous avons fait des concessions à la scénographie, mais pour ce qui est de la structure même du parcours, c'est tout à fait dans la même ligne.
Alors vous parliez un instant de la scénographie et un musée moderne fait aujourd'hui forcément appel au multimédia. Avez-vous intégré du son, de l'image dans cette nouvelle scénographie ?
Alors le projet intègre effectivement du son et de l'image dans cette scénographie. L'ensemble ne sera sûrement pas disponible le 16 mai pour des raisons que vous aurez bien compris, c'est-à-dire que le projet se déroulant en deux phases, le multimédia appartient plutôt à la seconde, mais nous prévoyons effectivement d'intégrer dans les salles 5 plans-reliefs avec des projections d'images animées pour expliquer les batailles principales de la période dont nous parlons, donc si l'on va de Louis XIV à Napoléon III, c'est la bataille de Rocroi en 1643, celle de Fontenoy, celle d'Austerlitz, celle de Waterloo, au début et à la fin. Et puis, la phase impériale de la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Nous avons également prévu 20 bornes interactives qui permettront d'explorer un certain nombre de thèmes tout au long du parcours. Ces thèmes étant essentiellement le contexte historique, l'uniformologie pour les plus passionnés, l'étude de l'évolution et de la fabrication des armements, notamment des armes à feu, ainsi que l'évolution de la pensée stratégique en fonction des diverses périodes, donc toujours découpées en trois, Ancien Régime, Révolution et Premier Empire et XIXe siècle. De surcroît, nous trouvons donc dans ces salles des animations sonores qui permettent de rendre vivante cette armée en marche que l'architecte scénographe du projet a voulu avancer dans le même sens que les visiteurs. Qui fait que les mannequins sont présentés de profil.
D'accord. Et autre contrainte, j'imagine, de cette nouvelle muséographie, c'est le nombre de pièces présentées qui a certainement dû être diminué. Déjà, pouvez-vous nous indiquer le nombre de pièces qui sont présentées en moins si...
Le nombre de pièces en moins, non, je vais avoir du mal parce qu'en fait, nous avons un problème pour savoir combien, enfin, quel est le décompte précis de mes prédécesseurs. Tout simplement parce que certains objets comptent comme des ensembles parfois et certains ensembles sont aussi comptés détaillés. Donc, si vous prenez un mannequin, je ne sais pas, un chasseur à cheval de la garde du Premier Empire, par exemple, il peut être constitué d'un habit, d'un gilet, d'une cravate, d'une culotte, d'une paire de bottes, etc., etc. Et donc, on peut avoir jusqu'à 25 objets représentant parfois une unité. Donc, le principe est un tout petit peu plus compliqué que celui-ci. Le calcul, en fait, n'est pas vraiment réalisable. Par contre, je peux vous dire qu'il y a plus de 2000 objets qui seront présentés dans les salles. Que ces 2000 objets ont été strictement étudiés pendant les 4 années qui ont précédé le démontage et que, au terme de cette étude, nous avons parfois effectivement rejeté certains des objets précédemment exposés, soit parce qu'ils faisaient doublon et n'étaient peut-être pas nécessaires, parce que vous savez aussi que les contraintes muséographiques sont un peu différentes aujourd'hui qu'elles ne pouvaient l'être dans les années 60, que nous avons choisi aussi de façon parfaitement arbitraire, j'assume, de présenter peut-être moins d'objets, mais de pouvoir mieux les voir. Certains jeux de miroirs, par exemple, permettent de regarder les objets sous toute leur face, ce qui n'aurait pas été possible si les vitrines étaient vraiment bourrées, à craquer. Et la dernière chose, c'est que nous avons également beaucoup joué sur l'espace et sur la mise en lumière. Et pour donner de l'espace et de la lumière à ces objets, il fallait aussi parfois s'autoriser à faire des rotations, parce que les objets fragiles ne supportent pas toujours très bien ce type de présentation et que de façon à pouvoir faire en sorte que des visiteurs dans des générations encore puissent s'extasier devant l'habit porté par Bonaparte à Marengo ou sa redingote, eh bien nous préférons parfois ne présenter qu'une seule pièce au lieu de trois, mais les trois seront visibles en alternativement.
Merci Émilie Robe. Avez-vous quelque chose à ajouter pour terminer de convaincre nos auditeurs à venir visiter ces nouvelles salles ?
Je vous dirais volontiers que si effectivement on peut nous reprocher d'avoir pris des parties un peu différentes des précédents, on retrouvera au musée de l'armée ce qu'on aimait y retrouver, c'est-à-dire des pièces qui sont propres à éveiller l'émotion. Et l'amour de l'histoire, qu'on y retrouvera bientôt l'ensemble des cavaliers de la salle Vauban et de leur mise en scène spectaculaire dans une immense vitrine qui occupe le centre d'un réfectoire de plus de 250 mètres carrés. Je vous dirai aussi qu'on va y voir des choses encore non vues, et je vous parlais tout à l'heure du Juste d'Egmont, mais il y a aussi de nouvelles pièces acquises, et qu'on les verra sous un autre angle, sous un autre jour. Et j'espère que tous ceux qui aimaient l'ancienne présentation aimeront également la nouvelle. Ainsi, ceux qui ne la connaissaient pas, j'espère eux aussi qu'ils en sortiront heureux.
Merci beaucoup. Je vous engage donc à venir découvrir ces nouvelles salles, inaugurées le soir de la nuit des musées, le 16 mai. Au revoir à tous et à toutes, et restez bien à l'écoute de Canal Académie.